104 FM. Alors comme ça, les corporations Suez, la Lyonnaise des eaux, Vivendi, Water pour les plus connus veulent contrôler notre eau. Moi je suis comme les paysans de Tucumán, Vatoman, Okuman, Vivendi, on les crame, nique sa mère. Comme à la Paz et El Alto, je me bats pour la qualité de l'eau. Je me bats pour que le prix de mon eau ne soit pas celui du rehaut. L'eau est le prochain pétrole des multinationales. Ça privatise aujourd'hui même ce qui est le plus vital. Vous me dégoûtez avec vos milliards de dollars. Et la Banque mondiale cautionne ce genre d'économie barbare. Deux sociétés françaises qui contrôlent 70% de l'eau potable, appuyée par l'OMC et les milliers de sous-tables. Ils ont tout niqué de Danone à Nestlé. Ils se sont tous enrichis, Suez, Vivendi. Ils ont privatisé ce qu'on avait de plus cher. L'eau potable est un luxe, nique sa mère, nique sa mère. Ils ont tout niqué de Danone à Nestlé. Ils se sont tous enrichis, Suez, Vivendi. Ils ont privatisé ce qu'on avait de plus cher. L'eau potable est un luxe, nique sa mère, nique sa mère. Tu comprends, de l'eau douce, il y en a que 3% sur la planète. En 30 ans, l'eau disponible a baissé sur ma planète. En plus, la qualité de l'eau est de plus en plus secrète. Le nitrate, les pesticides niquent de plus en plus la planète. Et ce n'est pas une fatalité, je te parlerai des PCB dans un autre texte quand tu seras prêt, quand tu seras moins teubé. L'Africain court de partout pour à peine par jour 30 litres, pendant que l'Américain chaque jour utilise 700 litres. Et encore un Africain sur deux souffre d'une maladie liée à l'eau. J'ai le flow qui rend tous ceux qui ne croient qu'en l'UNESCO. On privatise à tour de bras, on nous enlève notre peau. On augmente nos factures et les pauvres n'ont plus qu'une goutte d'eau. Mais à force d'anéantir le globe pour vos euros, vos enfants grandiront avec les mêmes problèmes du ghetto. Demain saute au FMI, de la Banque mondiale à ses amis, j'écrirai la vérité sur votre tyrannie. Ils ont tout niqué de Danone à Nestlé. Ils se sont tous enrichis, Suez, Vivendi. Ils ont privatisé ce qu'on avait de plus cher. L'eau potable est un luxe, nique sa mère, nique sa mère. Ils ont tout niqué de Danone à Nestlé. Ils se sont tous enrichis, Suez, Vivendi.
Il est 7h en temps universel, 10h à Kiev.
Clotilde Dumais.
Le journal international avec vous, Fabrice Le Grier. Cette question, ce matin, sommes-nous proches d'un accord entre les États-Unis et l'Iran?
Les deux camps font en tout cas état d'avancées significatives dans les négociations en vue de mettre fin à la guerre. Accord qui comprendrait la réouverture du détroit d'Ormuz. La question du nucléaire iranien serait repoussée à d'autres pourparlers. Les détails dans un instant.
En Ukraine, Kiev visé par de nouvelles frappes russes dans la nuit.
Une attaque massive de missiles balistiques et de drones. Le dernier bilan vient d'évoluer. Il fait état d'au moins 4 morts et d'une vingtaine de blessés.
10 pays africains menacés par le virus Ebola, en plus de la RDC et de l'Ouganda déjà touchés.
C'est ce qu'a affirmé hier l'Africa CDC lors d'une réunion Kinshasa, qui est par ailleurs vent debout contre la quarantaine que les États-Unis veulent imposer à la sélection congolaise pour le prochain mondial de football. Conséquence de la résurgence du virus, témoignage dans ce journal.
Et puis des élections législatives à Chypre aujourd'hui.
Scrutin dans un contexte particulier, les conservateurs et la gauche déclinent, l'extrême droite se prépare à une percée. Nous y reviendrons dans quelques minutes.
Des avancées donc ces dernières heures dans les négociations entre l'Iran et les États-Unis.
Le porte-parole du ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé hier que les deux pays étaient à l'étape finale pour obtenir un accord temporaire, accord qui donnerait un cadre pour continuer les négociations sur le nucléaire plus tard. Donald Trump s'est montré plutôt optimiste. Le président américain assure que les derniers détails seront annoncés rapidement. Édouard Maille.
Oui, alors en fin de journée ce samedi, Donald Trump a affirmé qu'un accord avait été largement négocié, mais sujet à une finalisation, une annonce sur son réseau Truth Social. Donald Trump a précisé que le détroit d'Ormuz rouvrirait, sans donner plus de détails sur les conditions de l'accord, mais selon des sources anonymes citées par le New York Times, l'Iran a accepté de se débarrasser de ses stocks d'uranium hautement enrichis, mais que la question de comment l'Iran se débarrassera de ses stocks reste à être discutée dans de prochaines négociations. Ce samedi, Donald Trump a eu un appel avec les pays du Golfe et d'autres pays membres des négociations. Certains dirigeants ont encouragé Donald Trump à accepter l'accord proposé par l'Iran, selon des sources New York Times. Le président américain s'est également entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, alors que ce dernier semblait avoir été mis sur la touche ces derniers jours. Et puis, une autre réunion pour Donald Trump avec ses négociateurs. Le président américain s'est montré plus optimiste en fin de journée, car plus tôt ce samedi, dans une interview aux médias Axios, Donald Trump avait estimé les chances d'un bon accord à 50-50, faute de quoi il menaçait de reprendre les frappes contre l'Iran.
Édouard Maille, une possible trêve qui doit inclure le Liban, souhait formulé par le Hezbollah concernant tout accord alors que les frappes israéliennes se sont poursuivies hier dans le sud du pays, malgré le cessez-le-feu du 17 avril. La défense civile libanaise annonce la destruction d'un centre de secours. Et notez par ailleurs qu'une frappe israélienne a touché le centre de la bande de Gaza dans la nuit. Trois membres d'une même famille, dont un nourrisson, sont décédés.
L'Ukraine cible d'une nouvelle attaque massive de missiles balistiques et de drones russes dans la nuit.
D'intenses bombardements qui ont frappé Kiev, deux écoles notamment. Le maire de la capitale fait état d'au moins 4 morts et d'une vingtaine de blessés. La Russie, qui on l'apprend ce matin, a notamment utilisé un missile balistique hypersonique Oreshnik.
Aux États-Unis, un homme a ouvert le feu près de la Maison Blanche hier soir.
L'individu a visé un poste de contrôle de sécurité. Il est décédé après avoir été abattu par les agents du Secret Service, tandis qu'un passant a été blessé. Donald Trump affirme que le tireur avait des antécédents de violence.
Cette déclaration de l'Africa CDC hier, 10 pays africains supplémentaires risquent d'être touchés par le virus Ebola.
En plus de la RDC, épicentre de l'épidémie, et de l'Ouganda, parmi les craintes, une propagation en Centrafrique, au Burundi, au Rwanda ou encore au Soudan du Sud. L'agence sanitaire de l'Union africaine, qui participait à une réunion de haut niveau hier à Kampala, en présence des ministres de la Santé ougandais, congolais et sud-soudanais et d'autres partenaires internationaux. 3 nouveaux cas déclarés en Ouganda. En RDC, on compte 867 cas suspects, 91 confirmés, 204 décès probables et 10 confirmés. Et pour les Léopards congolais, la route vers la Coupe du Monde de foot 2026 s'annonce pleine d'imprévus. Face à cette résurgence du virus Ebola dans l'est de la RDC, le protocole sanitaire très strict imposé par les autorités américaines, une bulle sanitaire de 21 jours avant de pouvoir débarquer, suscite beaucoup d'incompréhension et une pointe de déception chez les supporters. Olga Massangou.
Dans les rues de Kinshasa, l'incompréhension et la déception dominent. Et 10 fervents supporters des Léopards n'arrivent pas à s'expliquer l'extrapolation des autorités américaines concernant le virus Ebola.
À Kinshasa, ici, nous vivons normalement, nous vivons calmement. Mais quand j'ai su les informations, la situation est généralisée. C'est comme si tout celui qui habite la RDC est contaminé ou tout celui qui habite en dehors de la RDC du fait qu'il est congolais et d'office contaminé.
Conséquence directe de ces restrictions, le rassemblement des Léopards se fera finalement à Bruxelles et non plus à Kinshasa comme initialement prévu. Un coup dur pour Billy, qui, ne pouvant pas se rendre aux États-Unis, attendait ce rendez-vous manqué avec impatience.
Ah ben, je suis déçu. J'aurais aimé que pour une équipe qui revient dans une compétition aussi importante que la Coupe du Monde, que l'on prenne cette bénédiction, cette communion avec le public.
Que toutes ces tractations sanitaires et administratives ne viennent pas déconcentrer les Léopards dans leur préparation, c'est le vœu exprimé par Simon.
Ils ont fait déjà les plus durs, passé par les éliminatoires, 52 ans de traversée du désert. Et là, maintenant, il y a quelque chose qui veut se dresser en obstacle. Je souhaiterais que les Léopards puissent trouver de quoi transcender cette dernière difficulté.
C'est à partir de ce lundi 25 mai que la sélection congolaise va commencer à se réunir dans la capitale belge pour entamer cette préparation cruciale. Olga Massangou, Kinshasa, RFI.
En Chine, Fabrice, Pékin promet un durcissement des contrôles dans le secteur minier après le drame survenu vendredi.
L'explosion d'une mine de charbon dans une mine de charbon du Changxi qui a fait au moins 82 morts. Cette catastrophe, la plus meurtrière depuis 17 ans dans le pays, pourrait accélérer les fermetures de mines jugées dangereuses. Mais elle ne remet pas en cause à ce stade la place centrale du charbon dans le modèle énergétique chinois. Cléa Broderst.
Les autorités chinoises ont annoncé des inspections renforcées dans plusieurs bassins charbonniers et une campagne contre les activités minières illégales. Selon une récente circulaire de l'administration centrale de l'énergie, certaines mines auraient augmenté abusivement leur production pour compenser la baisse des prix du charbon au risque de dégrader la sécurité. La mine de Liu Shenyu avait déjà été sanctionnée l'an dernier pour plusieurs manquements. Les premiers éléments de l'enquête évoquent cette fois de graves infractions et une accumulation de gaz toxiques dépassant les seuils autorisés. Cette catastrophe pourrait accélérer la fermeture des exploitations les plus dangereuses et renforcer la consolidation du secteur autour de grands groupes publics mieux contrôlés par l'État. Pékin veut aussi moderniser l'industrie avec des mines davantage automatisées et soumises à des normes environnementales plus strictes. Un nouveau code de l'environnement écologique adopté en mars prévoit des sanctions contre les entreprises polluantes ou non conformes. Mais cet accident ne devrait pas remettre en cause le rôle central du charbon en Chine. Malgré l'essor des renouvelables, Pékin continue d'augmenter sa production et de construire de nouvelles centrales thermiques, le charbon restant indispensable à la sécurité énergétique du pays. Cléa Broderst, Pékin, RFI.
Des élections législatives à Chypre aujourd'hui qui pourraient redessiner le panorama politique de l'île.
Les conservateurs et la gauche perdent du terrain alors que l'extrême droite émerge en capitalisant sur un registre anti-immigration. 650 000 électeurs sont appelés aux urnes. Rappelons que Chypre est divisée en une partie grecque au sud, reconnue internationalement, et une partie turque au nord que seule la Turquie reconnaît. Le projet de réunification de l'île se joue aussi lors de ce scrutin, Emmanuel Stills.
Le bipartisme bousculé, une percée de l'extrême droite et une foule de petits mouvements anti-establishment, Chypre se prépare à voir son paysage politique chamboulé ce dimanche. D'abord parce que le Front National Populaire, l'extrême droite donc, devrait réaliser un score historique, près de 10%, grâce à sa rhétorique anti-immigration. Mais une kyrielle de jeunes partis et de candidats indépendants promettent aussi de casser le moule de la politique traditionnelle avec des projets anti-corruption, pro-européens ou de démocratie directe. Plus de 750 candidats pour seulement 56 sièges. Une question reste suspendue au résultat de ce scrutin. Une reprise des négociations est-elle possible en vue d'une réunification de l'île? C'est ce que laissait entendre l'an dernier l'élection côté turc d'un modéré, Tufan Erurman, favorable à l'intégration d'une Chypre réunifiée dans l'Union européenne. Côté grec, si les partis favorables au compromis résistent à l'avancée de l'extrême droite ce dimanche, les discussions en vue d'une réunification qui piétine depuis 10 ans pourrait revenir à l'ordre du jour. Emmanuel Stills, Athènes, RFI.
Et puis direction l'Équateur, puisqu'il y a un an précisément, le président Daniel Noboa entamait un nouveau mandat.
Et on peut dire que cette année n'a pas été facile dans un pays devenu le plus violent de la région, avec plus de 9200 homicides volontaires enregistrés l'an dernier. Bilan avec notre correspondant sur place, Eric Sanson.
Les coupures d'électricité ont fait leur retour en mars dans le pays. Et inutile de compter sur l'électricité colombienne, les deux pays sont en guerre commerciale. Un problème de plus dans une longue liste, selon le politologue Gustavo Hisch.
Il y a une accumulation de mauvaises nouvelles dans le domaine économique, dans celui de la lutte contre la corruption, la crise persistante dans le secteur de la santé publique. Les gens ont supporté beaucoup de choses au nom de la lutte contre la délinquance, mais même là, les résultats ne sont pas flamboyants.
Des résultats, il y en a pourtant. Il y a un an, les autorités ont détenu, puis extradé aux États-Unis à José Adolfo Macias, alias Fito, le leader de la puissante bande des Choneros. Mais la multiplication des couvre-feux donne la sensation d'un combat sans fin et parfois sans espoir. Et puis que la femme du président ait récemment obtenu une licence en quelques mois d'études n'a pas aidé.
La polémique autour de la licence de journalisme de sa femme, Lavinia Balbonesi, est un coup très dur à son capital politique.
dans le cadre des Jeux 10 juin. Principe Actif est mis à l'honneur pour la seconde année consécutive. 5 de vos émissions préférées et leurs animateurs s'emparent des platines le jeudi 4 juin à partir de 18h30 au Cube à Évreux pour une sélection musicale riche, variée, détonnante. Rejoignez-nous pour un moment partagé, convivial et festif. Le tout en totale gratuité. Bar et food sur site.
Faites le 3 si vous avez fait le 1 parce que vous êtes satisfait de votre message, ou faites le 4 si vous avez fait le 1 parce que vous étiez satisfait d'avoir fait le 2 parce que vous n'étiez pas satisfait de votre message.
Principe Actif, c'est aussi un répondeur. Au 02 32 62 57 32.
Je vais y arriver, hein. Je vais faire un message.
Sortie, événement, résultats sportifs, coup de gueule, info. Bref, le répondeur, c'est aussi votre zone d'expression radiophonique.
Paris, t'as eu un appel qui t'a perturbé.
Mais non, c'est pas un appel qui m'a perturbé.
Allô ? Je suis tout nu et je suis en train de me perturber.
Les messages sont diffusés à l'antenne dans la matinale à 8h15. Alors prenez possession des ondes et laissez vos messages après le bip. Au 02 32 62 57 32. On attend vos messages.